Deutsche Welle. L'arbre à palabre.
Bonjour. La nouvelle équipe dirigeante en Éthiopie est-elle en train de rendre possible en l'espace de 4 mois, ce qui ne l'a pas été en plusieurs décennies? Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien nommé en avril 2018, a introduit un changement dans les relations avec l'Érythrée. Il a promis d'appliquer l'accord de paix signé à Alger en 2000 avec l'Érythrée et les décisions restées depuis sans effet sur la démarcation de la frontière entre les deux pays. Un revirement inédit puisque Addis Abeba et Asmara annoncent que la guerre est terminée. Trop beau pour être vrai, disent certains. Des questions restant à clarifier, notamment dans quelle mesure le changement promu par Abiy Ahmed associe les acteurs politiques éthiopiens dans leur ensemble. Et bien sûr, la viabilité d'une telle paix dépend des causes qui y ont déterminé les acteurs. L'Érythrée a une position géographique intéressante sur le plan géopolitique et le fait que le pays fasse partie, peut-être malheureusement, des plus gros pourvoyeurs de migrants fait de lui une cible potentielle des politiques restrictives de l'Occident. Les dessous du rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée, on en discute avec nos invités. Maki Oumed Gaba, homme politique djiboutien basé en France. Vous êtes le représentant de l'Alliance républicaine pour le développement, un parti de l'opposition. Monsieur Oumed Gaba, bonjour.
Bonjour.
Jean Louchal, président de l'Association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti. Vous êtes connaisseur de Djibouti, mais aussi, je dois le dire, connaisseur de la région de la Corne de l'Afrique. Jean Louchal, bonjour.
Bonjour à vous.
Et Éloi Fiquet, enseignant, anthropologue et historien, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes basé en France, vous travaillez sur l'Éthiopie principalement, mais vos recherches, vos travaux concernent également, dans une certaine mesure, l'Érythrée et Djibouti, les autres pays donc de la région de l'Afrique de l'Est. Monsieur Éloi Fiquet, bonjour.
Oui, bonjour.
Chers invités, auditeurs de Radio Deutsche Welle, merci de nous rejoindre pour cette émission. Monsieur Jean Louchal, l'Éthiopie et l'Érythrée qui se rapprochent, on attend de voir comment ça va se passer. Est-ce que vous aussi, vous préférez la prudence par rapport au mouvement qu'on voit depuis quelques mois?
La première chose pour moi, c'était la surprise. Je pense que dans certains milieux, on en parlait, mais c'était quand même une grande surprise. Alors, j'ai cherché un petit peu les raisons qui pouvaient provoquer ce revirement, surtout de la part des Éthiopiens. D'abord, il y a la personnalité de M. Abiy Ahmed, qui n'est pas un tigréen. On sait que l'influence tribale est importante dans la région, que ce soit en Érythrée, en Éthiopie, en Somalie ou à Djibouti, l'influence tribale est importante. Et les Tigréens étaient au pouvoir en Éthiopie depuis un certain temps. Maintenant, M. Abiy Ahmed est Oromo. Bien que lié à l'ancienne direction, il a des intérêts différents. S'il est arrivé au pouvoir, c'est parce qu'il y avait beaucoup de contestations contre le régime, entre guillemets, tigréen de l'Éthiopie. Régime assez autoritaire, s'il en était. Donc, il a besoin de rompre avec une certaine politique, puisqu'il y avait une contestation. D'autre part, l'Éthiopie a aussi des problèmes de port. Depuis l'indépendance de l'Érythrée, l'Éthiopie n'a plus de port, et à Djibouti en priorité, ce qui est favorisé par les Chinois, puisqu'ils ont construit une ligne de chemin de fer entre les deux. Mais je pense que les Éthiopiens ne sont pas toujours sûrs de leur allié djiboutien et qu'ils aimeraient bien avoir une autre opportunité. L'Érythrée, de son côté, a des grosses difficultés financières, on le sait, liées d'abord aux sanctions qui la frappent, et puis les mines vont arrêter de produire d'ici 2 ou 3 ans. Donc on peut comprendre que les deux partenaires aient un intérêt chacun à se rapprocher. Voilà.
Alors, merci d'abord pour cette première intervention, monsieur Jean Louchal. Monsieur Oumed Gaba, vous nous entendez?
Oui, je vous entends.
Alors, votre appréciation de ce rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée depuis la perspective djiboutienne, est-ce qu'on se réjouit ou bien on s'en méfie?
Oui, donc merci pour ce débat qui est important parce que cette région de la Corne de l'Afrique est minée par des guerres incessante depuis si longtemps. Et rien que l'idée d'une paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie, c'est une bonne chose en soi. Les dessous des cartes viendront au grand jour progressivement et chaque chose en son temps. Mais l'idée même d'une paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée est une très bonne chose, puisque cette région est victime de ces guerres incessantes entre les pays, mais aussi entre les communautés.
Peut-être que vous pouvez nous dire comment Djibouti, par exemple, subit les conséquences de ce conflit sur des décennies entre l'Éthiopie et l'Érythrée.
Alors il y a Djibouti, le gouvernement, et Djibouti, la population. C'est deux mondes qui n'ont pas les mêmes intérêts. Djibouti, la population vit mal à la situation de guerre entre Érythrée et Éthiopie, mais aussi entre Érythrée et Djibouti, c'est arrivé, parce que il y a un manque à gagner en termes d'arrière-pays ouverts pour s'exporter, pour travailler, pour reconstruire, pour vivre aussi avec des familles de l'autre côté des frontières. Les familles sont séparées par ces frontières-là, Éthiopie, Érythrée et Djibouti. Mais du point de vue du gouvernement, le gouvernement a beaucoup investi cette séparation, cette guerre entre Érythrée et Éthiopie, afin de faire travailler, valoriser le port de Djibouti comme unique accès à la mer de l'Éthiopie. Et c'est cela qui va changer profondément actuellement, puisque l'Éthiopie aura accès également au port traditionnellement éthiopien de Assab, mais aussi de Massawa. Là-dessus, il y aura un changement. L'autre changement qui est escompté, c'est que Djibouti, par rapport à l'Éthiopie, ne pourra plus être un pays qui a tous les droits et qui se permet d'extrader les Éthiopiens, des opposants éthiopiens, c'est arrivé. Et cela va cesser puisque les opposants éthiopiens pourront être libres à Djibouti, s'exprimer si encore il y a besoin d'opposition au gouvernement actuel. C'est tout cela qui va changer. Et de même, les opposants djiboutiens qui sont en Éthiopie ne seront pas extradés, comme c'est également déjà arrivé. En 97, c'est arrivé que toute la direction du mouvement FRUD à l'époque, en 97, a été extradée de l'Éthiopie à Djibouti et emprisonnée à Gabod plus de 3 ans. Tout cela va changer. L'état de droit, le respect de la circulation des personnes, des opposants, mais aussi le respect de la circulation entre les personnes, entre les pays, sera un acquis. Un acquis qu'on peut escompter, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, nous
Ouais, on va.
espérons que cela aboutira à quelque chose de sérieux et ça a l'air d'être le cas. L'échange d'ambassade, c'est quand même une chose importante.
Oui, échange d'ambassade, en tout cas, c'est ce qui est annoncé entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Donc, vous avez l'air d'être content des retombées attendues de cette politique d'ouverture du nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en ce qui concerne le volet politique, les relations entre Djibouti, par exemple, et l'Éthiopie. Alors, Éloi Fiké, vous avez entendu les deux prédécesseurs. Jean Louchal, dans son intervention, a parlé de beaucoup de choses, mais notamment insisté sur l'origine Oromo de Abiy Ahmed. Alors, est-ce que vous, de ce point de vue, vous croyez que Abiy Ahmed, effectivement, a d'autres intérêts et c'est ce qui permet ce rapprochement avec l'Érythrée?
Alors, oui, le critère ethnique, l'identification selon des terminologies ethniques des acteurs de la scène politique éthiopienne est une des façons de voir le jeu politique. Hein. L'Éthiopie est organisée en fédération d'États déterminés selon des critères linguistiques et ethniques. Ce n'est pas non plus le seul facteur du jeu politique éthiopien. Qui se joue dans différents registres religieux, idéologiques, générationnels. Et de ce point de vue-là, Abiy Ahmed, au niveau de la scène politique et sociale éthiopienne, transgresse déjà plusieurs frontières. D'abord, il est certes identifié comme Oromo et membre du parti Oromo dans le jeu politique éthiopien, mais comme son prénom l'indique, Abi, c'est plutôt un nom Amara. Sa mère était Amara, chrétienne orthodoxe. Son père, Ahmed, c'est un nom musulman Oromo du sud-ouest de la région de Jimma. Lui-même est protestant. Donc à lui seul, il rassemble plusieurs des grands mouvements religieux qui ont fait l'Éthiopie. Donc c'est un peu comme ça, il est devenu une figure un peu centrale et conciliatrice à l'intérieur du jeu politique éthiopien.
Est-ce que sur le plan sociologique, tout ce que vous dites de Ahmed Abiy le rapproche particulièrement de l'Érythrée ?
Le rapproche particulièrement ? Non, je ne crois pas. En fait, il ne faut pas se focaliser non seulement sur l'Érythrée. Je crois que c'est l'ensemble de la politique régionale et des partenariats régionaux de l'Éthiopie là, qui, en quelques semaines, ont été totalement revus par l'action diplomatique d'Abiy Ahmed, sans parler de son action intérieure, qui là aussi s'est faite de façon très rapide et surprenante. Mais en quelques semaines, il a tout de suite été rendre visite à ses voisins immédiats, hein, Djibouti, Kenya, Soudan. Il a été ensuite en Arabie Saoudite, il a reçu le prince héritier des Émirats Arabes Unis, il s'est rendu en Égypte où il a prononcé un discours en langue arabe aux côtés d'Abdel Fattah al-Sissi et promettant de préserver les intérêts de l'Égypte dans la gestion des eaux du Nil. Il s'est rendu en Somalie, à Mogadiscio, où il a été très bien reçu par les autorités somaliennes. Donc il y a toute une séquence, en fait, qui précède ce moment très fort hein, de la venue d'Abiy Ahmed à Asmara et le fait que les deux leaders éthiopiens et érythréens se serrent dans les bras l'un de l'autre. C'est vraiment une image extrêmement forte et surprenante. Hein. Je ne sais pas si ça leur vaudra le prix Nobel, mais en tout cas, on est dans cet ordre des choses-là.
Oui, mais Jean Louchal, comme vous venez de l'entendre, M. Fiquet préfère qu'on mette tout ce qui se passe entre Abiy Ahmed et Isaias Afwerki dans le contexte global hein, des mouvements d'Abiy Ahmed qui a visité beaucoup de pays de la région. Mais est-ce que vous croyez à ça aussi, ou bien vous trouvez quand même qu'il y a une singularité de la politique d'Abiy Ahmed pour ce qui concerne l'Érythrée? Est-ce qu'il ne faut pas insister quand même un peu sur l'aspect érythréen?
Alors, moi, je pense qu'il y a aussi, il ne faut pas se cacher, l'influence des nations qui sont implantées à Djibouti. On sait que les États-Unis ont une base militaire importante et que les Chinois sont en train de s'installer énormément dans le pays. On sait qu'ils auront une influence, s'ils ne l'ont pas déjà très forte, sur le gouvernement djiboutien et aussi sur l'Éthiopie, parce qu'en Éthiopie, il y a beaucoup d'intérêts chinois, industriels, qui sont là. Alors, il y a bien sûr le côté régional qui suscite de nombreux espoirs. Un long chemin reste à parcourir, mais il faudrait savoir quelles seront l'influence des nations qui sont présentes à Djibouti et qui regardent ça avec le soutien apparent, mais qu'en sera-t-il par derrière ?
Donc, à votre avis, Abiy Ahmed est en quelque sorte sous influence. Hein. Ce qu'il fait est aussi déterminé par les intérêts des États-Unis, la Chine et autres puissances qui s'installent dans la région.
La question peut être posée. Je ne suis pas dans son bureau, mais je vois mal comment les nations qui sont en train de s'implanter, surtout la Chine, puisque les Américains sont déjà là depuis longtemps, n'aient pas une influence sur sa politique.
Peut-être, Éloi Fiquet, qu'est-ce que vous répondez à cette question, à cette préoccupation ?
Évidemment, il y a des gros intérêts internationaux dans la stabilité de la région qui ont sans doute contribué à cette situation de statu quo, de non-résolution du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée, où finalement chaque puissance régionale avait intérêt à cette situation de division, à miser sur différents acteurs et à régler par acteurs interposés leur conflit, aussi bien les pays de la péninsule arabique que la façon dont la Chine aussi positionne ses intérêts dans la région en misant aussi bien à Djibouti qu'en Érythrée, qu'en Chine, qu'au Soudan. Partout, hein, la Chine a un jeu mal à lire, mais en tout cas se positionne partout et avec des réactions des autres partenaires historiques de la région. Ensuite, voilà, si on se projette dans une assez longue durée historique, c'est quand même une région du monde qui se caractérise par une forte capacité de résistance au jeu international. Ce sont des régions qui ont résisté au colonialisme, qui ont su déterminer leur propre souveraineté, leur indépendance, par rapport aux puissances mondiales,
oui.
qui ne se laissent pas enfermer dans la main d'une seule puissance, mais qui jouent justement de relations plurilatérales et des compétitions entre les différents acteurs. Donc c'est un jeu extrêmement complexe qui ne saurait pas être réduit à quelques facteurs simples.
Quelques facteurs simples. On va revenir à vous tout à l'heure, Monsieur Fiquet. Mais Maki Oumed Gaba, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? Il y a effectivement des puissances étrangères qui s'installent à Djibouti, dont la position est très convoitée. Hein, et on entend dire que le positionnement de la Chine rend les États-Unis un peu frileux, les États-Unis qui pourraient avoir intérêt à passer par l'Éthiopie pour profiter aussi un peu de la position géographique de l'Érythrée. Est-ce que vous croyez en tout ça ? Comment est-ce que vous approchez un peu toute cette thèse, M. Maki Oumed Gaba ?
L'Éthiopie, l'Érythrée, bientôt Djibouti, les trois ensemble constituent une force dans la région de la Corne d'Afrique pour peser encore mieux qu'actuellement sur la marche du monde, puisque Djibouti et l'Érythrée contrôlent déjà le passage de la mer Rouge où il y a un intérêt économique majeur pour le monde économique, commercial, et cela va encore s'améliorer en étant unis entre trois pays.
Oui, on est en train de parler des enjeux régionaux et internationaux éventuellement, mais j'ai une petite question, M. Eloi Fiquet. Vous qui êtes anthropologue, certains redoutent des résistances de part et d'autre, autant en Éthiopie qu'en Érythrée, par rapport à ce processus de paix. Et on parle de Badme, qui est donc cette bande de terre à la frontière avec les deux pays. Et à Badme, il y a une majorité de Tigréens qui ne veulent pas se voir passer sous la coupe de l'Érythrée, alors que c'est ce que veut faire Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien.
Ça, c'est la question de tout traité de paix. Et quand des frontières ont été contestées, comment appliquer la paix à ces frontières ? C'est vrai que l'Éthiopie s'était installée dans la région de Badme en contradiction avec les conclusions de la Commission internationale de l'ONU formée suite au traité d'Alger. L'Éthiopie n'avait pas reconnu ces conclusions-là parce que l'Éthiopie entendait faire reconnaître son hégémonie militaire. De fait, il y avait une sorte de victoire militaire de l'Éthiopie en 2000 hein, suite au conflit, mais finalement, cette victoire n'a pas abouti à la reconnaissance des positions éthiopiennes. Donc la situation était coincé. Entre-temps, la région de Badme, il y a eu des installations de population pour occuper cette région. Et puis, c'est un territoire pour lequel, tant du côté érythréen qu'éthiopien, il y a eu des dizaines, des centaines de milliers de morts. Donc, il y a un poids symbolique extrêmement fort. Par exemple, déplacer les tombes des soldats éthiopiens de Badme, tout cela, ça va être extrêmement délicat à gérer. Ensuite, ça fait partie de tout processus de construction de la paix. Et je pense qu'après près de 20 ans de réflexion, les deux pays sont peut-être assez mûrs pour y arriver. Et sans doute obtiendront-ils des soutiens de la communauté internationale pour ce faire et faire que cette zone soit un peu plus neutre. C'est pas non plus une zone économiquement centrale, c'est traditionnellement une zone frontalière, c'est une zone de basse terre frontalière, donc il y a aussi des possibilités d'aménager cette zone de façon à ce que, si les deux pays veulent bien s'entendre, que les relations à la frontière soient des relations normalisé.
Oui, Jean Louchal, quel est votre point de vue ? Est-ce que vous croyez que la question de Badme sera une des pierres d'achoppement de cette paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée ?
Il est certain que, si vous voulez, de mon point de vue, il y a une grande résistance des populations locales. À savoir si M. Abiy Ahmed aura la capacité de surmonter ses résistances locales, je pense qu'il peut y arriver, mais ça va laisser des traces. Alors, qu'en sera-t-il pour son avenir à lui ? Il joue gros.
Parce qu'il faut voir aussi dans quelle mesure, quand il va partir, ce qu'il est en train de mettre en place maintenant va être poursuivi par l'équipe qui aura pris la relève.
Tout à fait. Et on peut craindre que les Tigréens, enfin les mouvements plutôt tigréens, qui ont perdu en partie le pouvoir, même si le parti ne l'a pas perdu complètement, résiste et suscite de nouvelles tensions. On sait que les tensions en Éthiopie sont fortes. On l'a vu avant l'élection d'Abiy Ahmed. Il y a des mouvements d'opposition qui sont très sérieux. Donc il y a un gros risque. On parlait même à un moment de l'implosion de l'Éthiopie. Je l'ai entendu dire par plusieurs observateurs. Donc il a un risque là de ne pas tenir l'Éthiopie et d'aller vers une chute.
Macky Oumed Gaba, nous sommes presque à la fin de l'émission. Une question concernant donc la migration, hein, parce qu'il y a parmi les migrants irréguliers qui prennent l'aventure risquée de la Méditerranée aussi, des fois, il y a beaucoup d'Érythréens qui tentent de fuir la chape de plomb avec laquelle Isaias Afewerki dirige ce pays, donc en état d'alerte permanent à cause du conflit justement avec l'Éthiopie. Est-ce que la résolution du conflit avec l'Éthiopie permet de résoudre indirectement la question de la migration?
Effectivement, c'est une question importante puisque l'Érythrée totalise environ 1,5 million d'Érythréens sont en exil ou en déplacement à l'étranger. C'est la diaspora parmi la plus importante au monde pour un pays africain. Et tout cela, comme vous disiez, pour fuir à la dictature.
Éloi Fiké, rapidement un mot sur ce volet. Est-ce que la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée permet de résoudre indirectement la question migratoire, enfin dans une certaine mesure, selon vous?
Ça aura certainement un impact. En tout cas, tout cela donne beaucoup d'espoir d'une forme de normalisation de la situation politique, que l'Érythrée ne pourra plus se cantonner dans une situation de pays agressé. C'est tel que le régime se présentait, et du coup s'enfermer dans une logique d'hypermilitarisation avec une conscription obligatoire, un service militaire de plusieurs années extrêmement dur pour toute la jeunesse. Et c'était l'un des motifs principaux de l'émigration. Donc si le régime érythréen, grâce à cette pacification, va vers une transition, vers une démilitarisation, ça aura très certainement un rôle. Ensuite, là, les choses ont été très vite ces dernières semaines. Sans doute, ça prendra plus de temps pour revenir à la normale. Mais comme Macky le disait, ces signes de fraternisation au niveau populaire, entre Érythréens et Éthiopiens, sont des très bons signes. Là, depuis que les communications téléphoniques ont été réouvertes entre les deux pays, des personnes, des familles séparées s'appellent alors qu'elles ne pouvaient pas s'appeler. Elles étaient obligées de passer par l'étranger et tout ça pour rester en contact. Donc, on assiste là aussi à un mouvement en profondeur de la population dont on ne sait pas encore les effets, mais ils vont très certainement jouer en profondeur à tous les niveaux économiques, sociaux, politiques, et c'est assez porteur d'espoir. En tout cas, on espère que ces espoirs trouveront à se réaliser.
Voilà. Mais nous nous en arrêtons là pour aujourd'hui. L'Éthiopie et l'Érythrée développent une politique de rapprochement. Certains évoquent ce qui se passe entre Donald Trump des États-Unis et Kim Jong-un de Corée du Nord. D'autres vont jusqu'à dire que c'est une version encore plus concrète de ce qui se passe entre États-Unis et Corée du Nord. De toute façon, la constance, c'est que tout le monde préfère attendre de voir comment se manifeste cette paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, une paix initiée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Merci à tous les trois d'avoir discuté avec nous. Éloi Fiké, anthropologue et historien. Jean Louchal, défenseur des droits de l'homme, président de l'Association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti. Et Macky Oumed Gaba, homme politique djiboutien. Merci à tous nos auditeurs d'avoir suivi cette émission. Fréjusqu'un homme à l'animation. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un autre thème sous l'arbre à palabres.